Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est le 7 juin 2018 et c'est Hélène Denis qui vous parle. Est-ce toi, Mathieu Tessier, dans le noir?
C'est moi. Noir, oui, vous ne me voyez pas?
Bien là, je vous vois. Vous venez d'allumer une petite lumière, là, mais vous aimez ça, animer dans la pénombre et faire aussi vos choses dans la pénombre?
Bien, pas la pénombre, mais laisser la place à ceux qui sont devant le micro. Oui,
ouais, vous voyez bien vos boutons?
Tout à fait. Oui. Sont illuminés?
Bon, c'est alors beau, vous avez le plein contrôle de votre console. Et puis, est-ce que vous avez préparé une chronique éphéméride aujourd'hui?
Oui, ma chère dame. Après la journée mini-jupe et celle des océans demain, il n'y a pas de journée mondiale aujourd'hui.
Ah non?
Je tenais à le souligner. Bon. Mais par contre, dans l'histoire, le 7 juin, je remonte en 1099, début du siège de Jérusalem lors de la première croisade. Ensuite, soyons un peu plus raisonnables, revenons en 1832. À l'arrivée d'immigrants irlandais à Québec, certains sont malades du choléra. En 3 mois, l'épidémie fera 3800 morts à Québec et 4000 à Montréal. 1905, toujours un 7 juin, par un vote du Storting, la Norvège se sépare de la Suède. 1936, en France, le patronat et la Confédération générale du travail signe les accords de Matignon, reconnaissant le droit syndical et instituant la semaine de 40 heures et les congés payés. 1949, le docteur Gustave Langteau, ancien archiviste du Canada, découvre les ossements de Jacques Cartier près de la chapelle de la Sainte Vierge, dans la cathédrale de Saint-Malo, en France. En 1962, la Suisse invite les premiers utilisateurs à utiliser des banques drive-through, des banques...
Drive-through.
Oui, c'est parce que j'ai le texte en anglais ici. C'est des banques, des guichets automatiques où on peut avoir accès
on peut
conduire comme un service à l'auto. C'est ça que je cherchais.
Oui, oui.
Service à l'auto bancaire.
Comme quand on va au restaurant et puis
exact.
Qu'on demande notre burger et qu'on le prend... À bord de notre voiture.
Voilà, et là, c'est un guichet auquel on a accès à partir de la voiture.
Ça donc, existe où, ça?
C'est en Suisse, mais il y en a quelques endroits aux États-Unis et en Europe aussi.
Ah bon?
Oui. 1989, au baseball, les Blue Jays de Toronto jouent leur premier match au Sky Dome pour les amateurs de baseball. En 2000, Amnesty International juge l'OTAN coupable d'avoir violé les règles de la guerre en bombardant la Serbie en 1999. 2009, le Suisse Roger Federer remporte le tournoi de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière, égalant ainsi le record de 14 victoires dans des épreuves du Grand Chelem détenu par Pete Sampras. Et en 2014, 3 prisonniers du centre de détention d'Orsainville à Québec réalisent une évasion en hélicoptère. Et pour ce qui est des naissances du 7 juin, le chanteur gallois Tom Jones est né un 7 juin. Et pour ce qui est des décès, j'en ai noté un. En 2006, Paul Cormier, le violoneux mieux connu sous le nom de Monsieur Pointu, nous quittait, lui qui était né en 1922.
Merci, mon cher.
Ça fait plaisir.
À la une de la presse plus, n'est-ce pas vous qui avez brûlé la Maison-Blanche? Une question que posait Donald Trump, paraît-il, à Justin Trudeau. Plus de détails tantôt. Le procès de David Baazov avorte. Commission parlementaire, aucune opposition au changement de statut de la presse. Le gourou Keith Ranière a tenté de se réfugier à Montréal. Imposition de tarifs douaniers, Trump évoque la guerre de 1812 pour se justifier. Une conversation téléphonique entre Donald Trump et Justin Trudeau a pris une tournure surréaliste à 2 semaines du G7 quand le président des États-Unis a faussement accusé les Canadiens d'avoir incendié la Maison-Blanche pendant la guerre de 1812 afin de justifier l'imposition de nouveaux tarifs douaniers 2 siècles plus tard. Selon CNN, qui cite des sources au fait de la discussion, Donald Trump a ressorti ce vieux conflit pour expliquer ses craintes actuelles sur la sécurité nationale des États-Unis. Ses inquiétudes envers le Canada constituent la raison officielle derrière les surtaxes de 10 à 25 imposées sur les importations d'acier et d'aluminium à la fin de mai. Justin Trudeau a répété sur plusieurs tribunes qu'il jugeait l'argument de la sécurité nationale inacceptable et insultant pour le Canada. C'est lorsqu'il a pressé Donald Trump de lui fournir davantage d'explications que le président aurait sorti l'exemple de la guerre de 1812. « N'est-ce pas vous qui avez brûlé la Maison-Blanche? » a alors lancé M. Trump, selon les sources de CNN. Le problème est que ce sont les troupes britanniques qui ont mis le feu à la Maison-Blanche et à plusieurs immeubles publics de Washington en 1814, alors que le Canada était encore une colonie de la Grande-Bretagne. Le Canada est officiellement devenu un pays indépendant un demi-siècle plus tard, en 1867. Le Canada et les États-Unis sont devenus des alliés permanents en 1940, rappelle le professeur d'histoire de l'Université d'Ottawa, Damien Claude Bélanger. Des histoires comme celle-là, c'est loufoque et historiquement parlant, faux, dit M. Bélanger. Ce n'est pas le Canada qui était en guerre contre les États-Unis en 1812 et ce n'est certainement pas le Canada qui a lancé un raid contre la ville de Washington, dit-il, rappelant que les milices canadiennes de l'époque auraient à peine pu défendre le Haut et le Bas-Canada. Les soldats britanniques ont allumé le brasier à la Maison-Blanche en représailles à une attaque américaine sur York, aujourd'hui Toronto en Ontario, un territoire devenu par la suite canadien. L'origine de ce conflit entre les États-Unis et la Grande-Bretagne découle d'ailleurs des tentatives d'invasion des Américains au nord de la frontière. Aucune opposition au changement de statut de la presse, 8 intervenants, aucun refus, personne ne s'est opposé à ce que la presse passe aux mains d'un organisme à but non lucratif au BNL au cours de la commission parlementaire chargée d'étudier le changement de statut du quotidien hier. Power Corporation, la direction de la presse, les représentants des employés et 2 syndicats ont formé un front commun en faveur de la transaction. Le directeur du Devoir, Brian Mize, a affirmé que les élus n'avaient pas à se mêler des affaires des médias. Même le grand patron de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, a reconnu qu'il ne s'opposait pas au projet de la presse, bien qu'il doute qu'il s'agisse d'une stratégie souhaitable pour les employés. Dans un témoignage attendu, le président et co-chef de la direction de Power Corporation, André Desmarais, assurer que l'OBNL, qui deviendra propriétaire de la presse, serait complètement indépendant du conglomérat. Il a confirmé l'intention de Power Corporation de verser 50 millions à l'OBNL qui administrera la presse. Le conglomérat se portera aussi garant des obligations passées du régime de retraite des employés du quotidien. Cette nouvelle structure d'entreprise permettra de recueillir des dons et d'obtenir de nouvelles formes d'aide gouvernementale. Questionné par le député du Parti québécois Pascal Bérubé, M. Desmarais a affirmé que Power Corporation n'aurait aucun mot à dire dans le choix du conseil d'administration du futur organisme. Quant à la ligne éditoriale du quotidien, M. Desmarais a dit souhaiter qu'elle demeure favorable à l'unité canadienne et qu'elle s'oppose à l'élection d'un parti séparatiste selon ses mots. Il s'agit toutefois d'un souhait et non d'une demande formelle, a-t-il précisé. Je poursuis un peu plus loin. Le projet de loi 400 a été déposé en fin de session parlementaire. Il faut donc que tous les élus consentent à la tenue d'un vote pour qu'il puisse être adopté. Notre souhait, c'est que cette pièce législative puisse être adoptée d'ici le 15 juin. Nous réservons notre vote suite à un échange avec le caucus de façon démocratique, a dit Pascal Bérubé, député du Parti québécois. Ce n'est toutefois pas le cas de la députée indépendante Martine Ouellette qui a exprimé de vives réticences par rapport à la transaction. À plusieurs reprises, elle a dit ne pas voir d'urgence à légiférer pour autoriser le changement de propriété du quotidien. Elle a également demandé que la presse lui montre ses états financiers, ce que l'entreprise a toujours refusé. En fin de soirée, la députée a refusé d'indiquer si elle s'opposerait à la tenue d'un vote. Au terme de sa présentation en commission parlementaire, le vice-président du Conseil de la presse, Guy Crevier, a affirmé qu'un député qui ferait dérailler la transformation du quotidien porterait une lourde responsabilité. Les stations Bixi ne sont pas prêtes de lever l'ancre à l'aube d'une importante expansion du territoire couvert par son système de vélos en libre service, dis-je bien. Montréal ne compte pas prendre le virage sans ancrage vu aux États-Unis et en Chine. Peu après son arrivée en poste, l'administration Plante a demandé au gestionnaire de Bixi d'étendre le territoire desservi. Celui-ci couvre actuellement 95 km², principalement au cœur de l'île. Aussi desservi, Longueuil a également manifesté la semaine dernière son intention d'étendre le territoire couvert. Mais on n'envisage pas pour le moment de miser sur les vélos sans ancrage qui pullulent aux États-Unis et en Chine. Ces montures sont dotées d'un système de verrouillage qui permet de les laisser n'importe où, éliminant la nécessité d'aménager des stations d'ancrage. Le virage sans ancrage a fait doubler le nombre de vélos en libre service en 2017 aux États-Unis. Pas moins de 22 systèmes sans ancrage ont vu le jour l'an dernier, tandis que 5 systèmes avec station ont pris de l'expansion en intégrant des vélos sans ancrage. Ces systèmes sans ancrage gagnent rapidement en popularité en raison de leur coût nettement plus faible, les villes n'ayant pas acheté des stations d'ancrage. Bixi dit garder à l'œil les développements technologiques dans l'industrie du vélo partage, mais affirme que les systèmes sans ancrage n'ont pas encore fait leurs preuves. Les usagers ont tendance à abandonner leur vélo n'importe où, ce qui encombre les trottoirs. Ce qu'on a pu constater, c'est que ce sont des systèmes chaotiques. Et l'administration Plante dit appuyer Bixi dans sa décision de conserver les stations. Des centaines de personnes se sont précipitées hier à Buenos Aires pour bénéficier d'une distribution gratuite de pain organisée par des boulangers qui voulaient protester contre la forte hausse du prix de la farine dans un pays qui exporte de plus en plus de blé. Le kilo de pain se vend en moyenne actuellement 60 pesos, 3 $ canadiens, dans la capitale argentine, soit quasiment le double de ce qu'il coûtait en février. Au cours de la même période, le prix du sac de 50 kg de farine a été multiplié par 3. Pendant plus de 5 heures, les boulangers en colère installés devant le Parlement ont distribué 10 tonnes de pain à raison de 1 kg par personne. C'est la deuxième fois qu'ils organisaient une telle manifestation après une première distribution fin avril. Ce coup d'éclat visait à réclamer à l'État qu'il se préoccupe d'abord de l'approvisionnement du marché intérieur avant que l'on puisse exporter du blé, a expliqué Javier Silva, patron d'une boulangerie dans la banlieue de la capitale et responsable de la fédération professionnelle ayant organisé la manifestation. Une semaine après avoir annoncé la construction d'un centre avant-gardiste de traitement des commandes en ligne, voilà que Simons confirme l'ouverture d'un 16e magasin. Celui-ci sera situé au centre Fairview Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île de Montréal, dans l'ancien local de Sears. L'inauguration doit se faire dans 3 ans.
Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir dans la vie. Il y a
Et oui, Jacques Dutronc et sa fabuleuse chanson « Les cactus ».
À la une du nouveau devoir, puisque le devoir a changé de look, si vous me permettez l'expression, je vous en dirai un peu plus tantôt. Culture, l'hommage à Cohen vire à l'échec financier. Le spectacle Tower of Song devait aider à financer les trois conseils des arts, mais la production est déficitaire. Lacs et rivières ouverts aux pétrolières. Ara Ball et La révolte amoureuse. Pour son premier long métrage, il revisite Harold et Maude avec Quand l'amour se creuse un trou. Ara Ball l'avoue sans peine, l'œuvre de Hal Ashby figure au sommet du palmarès de ses films préférés. Économie, Québec et la Malbaie se préparent pour le sommet du G7. Et science, les paléontologues de la génération Parc Jurassique ont causé un boom de découvertes de dinosaures. Alors, Le Devoir présente une nouvelle signature graphique. Cher lecteur, écrit Brian Mize, et lectrice, vous n'avez pas la berlue. Le Devoir dévoile aujourd'hui une nouvelle signature graphique, résultat d'un travail d'équipe mené en coulisses depuis quelques mois. Toute l'équipe est fière de vous présenter ce matin votre bon vieux nouveau devoir. La nouvelle signature porte la marque de la designer de renommée internationale Lucie Lacava, celle-là même qui est à l'origine de la signature du D magazine lancé l'automne dernier. Le déploiement d'une nouvelle signature graphique nous offre l'occasion de revoir également nos façons de faire, comme cela est expliqué plus bas. Il y aura plus de nouvelles brèves et le découpage de l'information ne sera pas nécessairement fait en fonction de sections préétablies, politique, économie, culture, monde, etc., mais en fonction de l'actualité du moment. Nous avons apporté des modifications mineures à notre logo de 1993, y ajoutant deux couleurs. Toutefois, l'inspiration de 1910 demeure avec l'élégance et la sobriété des premiers jours. Pour notre édition du samedi, par contre, préparez-vous à une petite surprise car le logo sera joué à la verticale. Ce changement ne résulte pas d'un caprice de graphiste, mais d'une réflexion élaborée afin de dégager de l'espace au balcon, entre guillemets, le haut de la une et de mettre en valeur des éléments visuels. Sur le fond, le devoir ne changera pas. Et un lecteur averti en vaut deux, Marie-Andrée Chouinard, directrice de l'information, qui nous parle donc des changements apportés au devoir. Logo, la grille, typographie, les suites cahier 2, les brèves publicités modulaires. Alors, typographie, nous disons adieu à la century-old style et prendrons nos aises désormais avec de nouvelles typographies, les Brunel, Lyon et Graphique. Nous avons grossi le point de la Lion Text qui passe de 10 à 10,3 points, dont le caractère plus gras permettra aussi une lecture plus facile. Suivant une tendance internationale, nous plaçons la suite des textes de la Une non plus au verso du premier cahier, mais bien dans les pages intérieures. Cahier 2, notre deuxième cahier, le 2, c'est son nouveau nom, trouve chaque jour une identité collée aux forces vives de l'actualité. Et les brèves, dans un contexte où on choisit de miser sur certaines histoires, les brèves deviennent un élément d'information d'importance pour le lecteur. Alors, la nouvelle qui fait la une, l'hommage à Cohen vire à l'échec financier. Les ventes de billets qui se détaillaient de $40 à $276 et les droits de licence payés par Radio-Canada CBC n'ont pas couvert les coûts de production du concert et de sa captation. On parle du spectacle Tower of Song. Si le succès artistique du concert a fait l'unanimité, son montage financier a pour sa part laissé un trou dans les finances de la Unified Heart Production Foundation, UHPF, un organisme à but non lucratif créé spécialement pour produire ce spectacle. Ce sont toutefois les héritiers de Leonard Cohen qui payent actuellement le prix du déficit. C'est en effet le Leonard Cohen Family Trust, administré par Robert Corey, qui a prêté l'argent manquant à la UHPF. Alors, je poursuis. Les revenus futurs que la Fondation pourra tirer de la vente des droits de diffusion du concert dans différents marchés serviront à rembourser le prêt et à verser d'hypothétiques profits au Conseil des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Même s'ils ont obtenu la tête de Martine Ouellet, cinq des démissionnaires bloquistes ne reviendront pas au bercail. Ils gardent le cap et formeront leur propre parti. Mais certaines de leurs associations de circonscription pensent qu'ils devraient plutôt retourner au Bloc québécois. Le Bloc québécois qu'on a quitté est encore... Le Bloc québécois qu'on a quitté est encore là, a tranché Réal Fortin mercredi. Bien que ses collègues et lui aient critiqué le leadership de Martine Ouellet, il lui reprochait aussi la direction dans laquelle elle souhaitait mener le parti, et ce second enjeu n'a pas changé à leurs yeux. Les démissionnaires déplorent que le Bloc d'aujourd'hui veuille faire la promotion de la souveraineté, avant tout, sur toutes les tribunes, alors qu'eux souhaitent d'abord défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Réal Fortin, Monique Posé, Louis Plamondon, Gabriel Sainte-Marie et Luc Thériault fonderont donc leur parti Québec debout. M. Fortin en assumera la chefferie en attendant un congrès de fondation lors duquel un chef permanent sera choisi. Les démissionnaires Michel Baudrillard et Simon Marcil ont toutefois décidé, eux, de regagner la famille bloquiste. « Parce que Martine est partie, c'est simple, c'est elle le gros problème », a expliqué M. Marcil. M. Baudrillard prédit que les deux camps finiront par se réunir. « J'ai bon espoir que tous les souverainistes seront réunis en 2019 pour l'élection générale. » Pour l'instant, les cinq futurs fondateurs de Québec debout le nient catégoriquement. SOS pour les élèves en difficulté. La bonne volonté ne suffit plus pour scolariser les élèves handicapés ou en difficulté. Le milieu de l'éducation doit réagir pour venir à bout du taux de décrochage scandaleux de ces élèves dont le nombre a explosé depuis 15 ans. Dans un rapport exhaustif, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande un sérieux coup de barre pour mettre fin à l'exclusion des élèves handicapés ou ayant des difficultés d'apprentissage dont le nombre a augmenté de 72 % en 15 ans dans les écoles du Québec. Un élève sur cinq, plus de 200 000 du primaire et du secondaire, fait désormais partie de ces enfants ayant besoin de services particuliers pour réussir à l'école. Au secondaire, c'est encore plus criant. 26 % des élèves sont handicapés ou en difficulté. La commission fait une série de recommandations pour s'assurer que les élèves HDAA, je vous en ai parlé un petit peu plus haut. Donc, ce sont les élèves handicapés ou en difficulté. Ces élèves-là reçoivent bel et bien les services auxquels ils ont droit en vertu des lois et de la Charte québécoise des droits et libertés. Parmi ces recommandations, que les commissions scolaires établissent un seuil de service pour tous leurs élèves handicapés ou en difficulté. Le ministère de l'Éducation devrait offrir le financement nécessaire au respect de ce seuil des services ainsi qu'au soutien des enseignants. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, affirme qu'il a déjà commencé à agir pour améliorer les services aux élèves en difficulté. « En réaction à l'affront à son leadership mardi soir, le maire de Laval, Marc Demers, ne s'est pas présenté à la seconde séance du conseil municipal mercredi. En l'absence de quorum, cette dernière a été reportée à jeudi matin. Le conseil municipal avait déjà été ajourné la veille à la suite d'un mouvement de fronde de la part de 9 conseillers municipaux de l'équipe Demers à l'endroit de leur chef. Ceux-ci, menés par le conseiller municipal David de Cotis, ont voté avec l'opposition pour un remaniement majeur du comité de vérification de la ville.
Yeah, man.
Angélique Kidjo et Lon Lon.
À la une du Journal de Montréal, Jacques Villeneuve et son père, mais qui a l'air en cire. Gilles était mon héros. C'est Jacques Villeneuve qui le dit. 40 ans après la victoire de Gilles Villeneuve à Montréal, son fils Jacques se confie dans une chronique spéciale. Il a été photographié hier, justement, à côté de la statue de cire de son célèbre père. Guy Laliberté se lance dans le pot. Barricadé pour le G7. Et retour sur le Grand Prix du Canada. 32 pages, 40 ans déjà, la victoire mémorable de Gilles. Gratuit à l'intérieur, cahier spécial F1. Et réunion bien arrosée au Parlement, homard et vin à vos frais. Guy Laliberté passe du cirque au cannabis. Une firme du milliardaire québécois devient actionnaire d'un producteur ontarien. Guy Laliberté se lance dans le pot. Le célèbre milliardaire et fondateur du Cirque du Soleil investit dans la compagnie de cannabis ontarienne 48 North, dont le président du conseil d'administration est le propriétaire de journaux, Martin Cochon. La plus récente transaction de Guy Laliberté s'est conclue mardi par l'intermédiaire du groupe Lune Rouge, dont il est le seul actionnaire. Grâce à Lune Rouge, le richissime homme d'affaires qui s'est départi du Cirque du Soleil en 2015, s'est lancé dans une foule de projets dont Pangea ou Pangea, un concept qui veut redéfinir les rites funéraires au moyen notamment de projections virtuelles. Hier, M. Laliberté n'a pas voulu accorder d'entrevue. Anne Donjoie, porte-parole de l'entreprise, a affirmé que l'investissement avait été fait après que Lune Rouge eût évalué le potentiel du marché canadien dans le secteur du cannabis pour l'utilisation médicale. Nous croyons que ce marché peut représenter un potentiel de croissance dans un marché réglementé et surveillé, a-t-elle expliqué. Au terme de cette transaction, Lune Rouge acquiert 12,85% de 48 North, ce qui en fait l'un des principaux actionnaires. À la une, donc, politique, facture de 2470 $ pour la réunion 22 personnes. On a un beau homard, un menu gastronomique. Le 1er juin 2017, les députés ont pu se régaler à manger 79 $ par personne. Alors, le menu, je vous le donne, salade de laitue, fromage râpé, tomates, concombres, crevettes nordiques, oignons rouges, œufs cuits, durs et vinaigrette maison. Assiette de poisson mariné et fumé, assiette de viande froide, 200 g de homard décortiqué avec beurre et citron, filet de porc à l'asiatique, du haut de riz, légumes sautés, assiette de fromage fin, assiette de fruits, mignardise. 38 $ pour la bouteille de vin. À boire, 3 bouteilles de domaine Reine Juliette, 5 bouteilles de domaine du vieux Lazaret. Alors, sous ce menu gastronomique, on peut lire « Jacques Chagnon traite des députés aux petits oignons. Qu'ils soient libéraux, péquistes ou caquistes, les élus qui siègent au bureau de l'Assemblée nationale, le banc, se font gâter par Jacques Chagnon avec des repas gastronomiques et du vin de qualité à chacune de leurs réunions », a appris le journal. Le caquiste Donald Martel a dit au journal qu'il ne buvait jamais pendant ses réunions. Et son collègue Jean-François Roberge a dénoncé la situation durant sa première présence au banc. Questionné à ce sujet, Jacques Chagnon a affirmé au journal qu'il ne fait que perpétuer la tradition. Ces festins peuvent être coûteux, en général entre 50 et 110 $ par personne, pour des factures d'environ 1 500 $ par rencontre, dis-je bien, mais qui peuvent atteindre 2 700 $. Jean-Pierre Charbonneau, président de l'Assemblée entre 1996 et 2002, soutient que les repas arrosés de vin n'étaient pas la norme pendant qu'il y siégeait. Quant aux repas plus coûteux, il est de coutume que lors de la dernière réunion avant l'été, les membres du bureau font un dîner au homard de la Gaspésie, dit le président Jacques Chagnon. Une grève illégale en vue au nouveau pont Champlain. Une autre tuile pour le chantier du nouveau pont Champlain, le syndicat FTQ des grutiers prévoit faire la grève des heures supplémentaires pendant 9 jours, puis observer un débrayage illégal le lundi 18 juin, selon les sources de notre bureau d'enquête. De quoi ralentir considérablement les travaux du constructeur déjà sous pression pour finir en décembre 2018. Les grutiers ont déjà commencé leurs moyens de pression samedi dernier en refusant de travailler sur le nouveau pont Champlain. Tous les quarts de travail de fin de semaine sont considérés comme des heures supplémentaires. Les grutiers de la FTQ veulent protester contre les récents changements des règles touchant leur métier, entrés en vigueur le 14 mai. Elles permettent notamment aux travailleurs qui ne sont pas des grutiers de manœuvrer des petits camions flèches qu'on appelle aussi « boom trucks ». Les nouvelles règles élargissent aussi le recours à des travailleurs qui n'ont pas obtenu de diplôme d'études professionnelles de grutier. L'organisatrice du Parti libéral démissionne. Elle est en affaire avec un proche de la mafia. Karine Desjardins a quitté l'organisation du Parti libéral du Canada dans Belleuil-Chambly peu après que notre bureau d'enquête ait révélé ses liens d'affaires avec un proche du crime organisé. Elle était aussi candidate pour Justin Trudeau en 2015 dans cette circonscription de la Montérégie. Notre bureau d'enquête a découvert que Mme Desjardins fait des affaires avec Michael Strizzi, un proche de l'ancien parrain de la mafia Vito Rizzuto, qui était fiché notamment par la commission Charbonneau. Le bureau de Justin Trudeau n'a pas souhaité commenter. Des milliards de chenilles au Québec, 200 000 hectares de forêt vont être sans feuilles. Plusieurs régions du Québec sont envahies par des milliards de chenilles qui dévorent les feuilles et grimpent sur les fondations des résidences. Étonnamment, les scientifiques ne savent toujours pas ce qui explique le déclenchement d'une épidémie. Et pour terminer, une jeune fille de 14 ans de Montréal, Océane Dinardo, serait en fugue depuis mardi après-midi. Ses proches craignent qu'elle soit prisonnière de membres de gangs de rue dans un réseau de prostitution. « Nous sommes extrêmement inquiets », laisse tomber sa tante, Vanessa Nadeau. « On espère qu'elle n'a pas été embarquée dans une histoire. » La police de Montréal confirme qu'elle traite l'affaire comme une fugue et qu'on craint pour sa sécurité. Au moment de sa disparition, elle portait une camisole rouge et un jean. Elle mesure 168 cm et pèse 57 kg. Toute personne ayant des informations concernant Océane Dinardo peut communiquer avec les autorités au 514-393-1133, 514-393-1133.
Des fourmis, il n'y a que des fourmis. portes de fourmis, des ascenseurs de fourmis, des océans de fourmis, des galaxies de fourmis, des échangeurs de fourmis, des myriades de fourmis. Oh, oh, oh.
Les fourmis que nous chantait Jean Leloup.
Les journaux régionaux dans Le Nouvelliste, un journaliste du Nouvelliste victime d'un délit de fuite. Le journaliste du Nouvelliste, Martin Lafrenière, a été blessé mardi en début d'après-midi, après avoir été happé par un véhicule qui a pris la fuite à la suite de l'accident. Le journaliste, qui a subi plusieurs fractures, se trouvait juste à la sortie du journal lorsque l'accident est survenu, alors qu'il traversait la rue pour aller récupérer son véhicule stationné chez un commerçant du coin. L'accident est survenu à l'intersection des rues Bellefeuille et Bureau. J'étais en train de traverser la rue, j'ai vu un véhicule qui s'engageait et je me suis arrêté. La dame qui conduisait m'a vu et je lui ai fait signe de passer. J'ai ensuite continué de traverser, mais cette autre voiture est arrivée de nulle part et très rapidement. Je me suis fait ramasser, je suis tombé au sol, se souvient Martin Lafrenière, qui n'a malheureusement pas pu identifier le véhicule, qui a par contre été capté sur des caméras de surveillance. Son seul souvenir demeure que le conducteur a clairement appuyé sur l'accélérateur pour fuir les lieux. J'ai entendu le véhicule accélérer tout de suite après et il est parti. J'ai trouvé ça tellement ordinaire, ça m'a mis en colère. Que tu frappes une poubelle, un écureuil, c'est une chose, mais là, tu viens de frapper une personne et tu ne t'arrêtes même pas. J'ai trouvé ça irrespectueux. Ça peut arriver une malchance dans la vie, mais au moins, il faut s'arrêter et offrir son aide, dénonce le journaliste qui a reçu de l'aide d'un automobiliste témoin de l'accident, ainsi que d'une voisine qui est venue l'aider. Selon des témoignages recueillis par la Sécurité publique de Trois-Rivières, le véhicule circulait rapidement sur la rue Bellefeuille en direction ouest lorsqu'il aurait coupé un autre véhicule pour bifurquer dans la voie de gauche et ensuite effectuer un virage très rapide sur la rue Bureau. C'est à ce moment-là qu'il a happé le piéton qui a été rapidement transporté à l'hôpital. Malgré que sa tête ait frappé le sol, Martin Lafrenière s'estime très chanceux puisqu'il n'a subi que des fractures et des entorses aux deux genoux. La chronique de Patrick Duquette dans le droit s'intitule « La route pour mieux vieillir ». Impossible de rester insensible en écoutant Lucie Piché parler de ses parents. Pendant 15 ans, cette Gatinoise s'est occupée de ses parents vieillissants à la maison. Plutôt que de les « placer » entre guillemets dans un foyer, elle les a accompagnés jusqu'à la fin, sans compter les heures. D'abord sa mère qui souffrait d'insuffisance cardiaque, puis son père sourd et aveugle de 94 ans. On s'imagine parfois les proches aidants comme des personnes épuisées, laissées à elles-mêmes, au bout du rouleau. C'est vrai que c'est une tâche prenante, souvent culpabilisante, et certainement pas à la portée de tous. Lucie Piché, une retraitée du système de santé, en parle comme d'une expérience accaparante, mais dans l'ensemble positive et enrichissante au plan humain. En s'occupant jusqu'à la fin de ses parents à la maison, elle a appris des leçons de vie essentielles. « Le legs de mon père, dit-elle, c'est qu'il m'a montré à vieillir. Il m'a prouvé qu'on pouvait mourir heureux. Mon père, je ne l'ai jamais vu déprimé, même s'il était sourd et aveugle durant les 5 dernières années de sa vie. Ma mère, elle, répétait qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. » Madame Piché fait partie des 1,5 million de proches aidants qui permettent chaque année à la société québécoise d'économiser plus de 5 milliards en soins de santé. Elle préside l'appui Outaouais, un organisme qui soutient les proches aidants au moyen d'une ligne d'aide, de services de répit et de groupes d'entraide. Le proche aidant doit avoir un réseau pour l'aider. S'il y a un élément qu'on doit absolument améliorer pour les soutenir, ce sont les mesures de répit, glisse-t-elle. Le G7 vu par les enfants de la Malbaie, c'est dans le soleil, sous la plume de David de Rémillard. Seulement l'affaire des adultes, le G7, les jeunes de la Malbaie vous diront le contraire. Certains auraient même deux mots à dire aux grands dirigeants de ce monde qui se réuniront tout près d'eux, vendredi et samedi, parfois à quelques centaines de mètres de la maison. La cinquantaine d'élèves de sixième année du primaire de l'école Félix-Antoine Savard, rencontrés par le soleil mercredi, en étaient à leur dernière période de classe avant de quitter pour un long congé. Conséquence du sommet du G7 tenu en pleine période d'examen de fin d'année. Comme les adultes, leur quotidien est chamboulé par les mesures de sécurité extraordinaires. Rien pour les empêcher de vivre leur vie, mais... Jamais ces jeunes n'ont-ils vu autant de policiers, de militaires et autres agents de sécurité dans leur ville. Même chose pour les équipements qui viennent avec hélicoptères, aéroglisseurs, ballons-sondes, bateaux, motos, véhicules blindés, véhicules tout-terrain et chevaux ont tout fait d'attirer leur attention. Édouard a rencontré ce qui lui semblait être un garde du corps. Il a dit que lui, pendant le G7, il allait être sur un bateau et qu'il y aurait plein de soldats avec des gros fusils. J'étais curieux, je posais beaucoup de questions, mais des fois il me répondait qu'il ne pouvait pas me répondre, a relaté l'élève dans ses mots d'enfant. La situation est d'autant plus cocasse chez Charles, qui a pu s'entretenir avec un agent de la sécurité du Québec. Le policier, c'est mon père. a-t-il lancé avec fierté. Mais impossible d'avoir de l'information privilégiée, parce que je pourrais en parler à d'autres, qui pourraient en parler à d'autres, qui pourraient en parler à d'autres, qui pourraient finir dans le journal. Les finances publiques semblent être une préoccupation déjà très forte chez ces jeunes de 11 et 12 ans. Parmi les grandes interrogations entendues mercredi, celle des 600 millions de dollars payés par le gouvernement fédéral pour organiser la tenue du sommet est revenue plus d'une fois. Jérémy n'est pas passé par quatre chemins. Je comprends pas pourquoi on dépense des millions de dollars pour à peu près une semaine. C'est juste sept dirigeants. Oui, ils sont plus importants, mais c'est juste pour se parler. Ils auraient pu faire ça dans un chalet, le dire à personne, ça aurait pas dérangé, a tranché le garçon qui aimerait bien avoir l'occasion de le dire à Justin Trudeau au cours des prochains jours. Qu'ils investissent plus pour faire des choses à la Malbaie, a proposé Rosalie, qui croit également, comme d'autres camarades de classe, qu'on aurait pu donner tout cet argent à des villes, des pays pauvres. La lutte contre la pollution et l'environnement figurait aussi parmi les priorités. Si une moitié de classe voyait le G7 d'un mauvais œil, l'autre percevait des avantages. Ça va nous aider. On parle ici de la Malbaie avec la popularité. Amener de l'argent, a lancé une première élève. Certains reconnaissent qu'il s'agit d'une expérience unique. On va sûrement vivre ça juste une fois dans notre vie. Quand même, la Malbaie, c'est assez petit, on est chanceux de recevoir les sept dirigeants, a exprimé Louis-Philippe. D'autres, comme Marianne, apprécient tout simplement le fait que ça bouge. Moi, j'aime ça parce que d'habitude à la Malbaie, il ne se passe pas des choses comme ça. Si Donald Trump est le plus connu des grands leaders du G7, il n'est absolument pas le plus populaire. Personne n'a osé lever la main lorsque l'auteur de ces lignes a demandé aux élèves s'il lui était sympathique. Ariane aurait néanmoins une question à lui poser. Est-ce que c'est sa vraie coupe de cheveux? Fête nationale, un spectacle au cube pour concevoir son troisième spectacle de la fête nationale sur les plaines d'Abraham. Jean-François Blais et son équipe de concepteurs ont adopté la pensée triptyque, une scène triple, trois animateurs et trois histoires de héros. C'est dans Le Soleil, Josiane Desloges. L'animation a été confiée à Garou, Isabelle Boulay et Grégory Charles, alors que l'écriture des trois histoires de héros qui feront office de discours patriotique a été confié aux auteurs primés Simon Boulris, Marie Laberge, Anaïs Barbeau-Lavalette. Le spectacle sera en trois parties et librement inspiré de « J'ai vu le loup, le renard et le lion » que Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault ont présenté à la Super Francofête de 1974, a annoncé Jean-François Blais, metteur en scène, directeur artistique et réalisateur du spectacle. On replongera dans les tubes québécois des années 80 avec Mitsou et les chansons des bébés, puisqu'Alain Lapointe, François-Jean et Ludovic Bourgeois rendront hommage à Patrick Bourgeois, mort cette année. La présence de Luc de la Rochelière sera également l'occasion de souligner sa longue carrière. Sinon, Patrice Michaud, les sœurs Boulay, Émile Bilodeau, deux frères, Annie Villeneuve, Corneille, Jean-Pierre Ferland, Daniel Lavoie et compagnie y seront. Justement, on entendra de Jean-Pierre Ferland dans quelques secondes.
À 100 000 à l'heure sur la route, démaquillé sur une 750cc, on pense à rien, on parle à sa roue dans la main. Où tu prends la cour au bout, y'a personne qui la prend. Des bras par devant, des bras par derrière, la tête en fibre de verre bleu, verre bleu. À 100 000 à l'heure sur la route, hier est au niveau des deux carburateurs, demain est à fleur de macadam et de caoutchouc. Le beau moment entra par peur et aller jusqu'au bout. Le feu du vent, le son des deux. À 100 000 à l'heure sur la route,
y a des pensées qui pardonnent pas beaucoup. Comme un peuplier donne la vie immuablement, comme il la reprend sur la ronce par son immobilité. Des bras par devant, des bras par derrière, la tête ailleurs, il fait beau. On a modéré dans un champ de blé, on l'a dévalé. À 30 000 à l'heure, on s'est trouvé à tout voir de plus près. Pendant que nos chevaux soufflaient, bonjour le jour, bonjour le ciel, bonjour les yeux fermés. Son bras dans mon cou, ma main sur ses jambes. À 0 000 à l'heure, y a des pensées qui pardonnent pas beaucoup. Comme un besoin de s'arrêter. Bonjour le blé, bonjour le pain, bonjour le vin de blé. Tous les trois tout nus, tous les trois ensemble. Et sous le peuplier, les portes s'ouvrent et les oiseaux s'envolent. À 600 000 à l'heure sur la route 11, le bout du monde est à portée de soi. Le dimanche en plein été, les maisons sont comme des sacs de thé.
La route 11, Jean-Pierre Ferla.
Comme c'est bon cette chanson, de l'album Soleil. Alors, on poursuit maintenant avec la portion culturelle. C'est la chronique d'Hugo Dumas. Québécois serre la vis à ses chroniqueurs. Choisissez votre camp. C'est nous ou c'est eux? Plusieurs chroniqueurs vedettes de LCN, de TVA et du Journal de Montréal qui collaborent depuis des années à des stations de radio de Cogeco ou de RNC Media ont récemment dû renoncer à de lucratifs contrats pour se consacrer entièrement à leur employeur Québécois. Pourquoi? Parce que Québécois reluque le marché de la radio et désire regrouper ses stars à la même antenne pour décupler sa force de frappe. Québécois inaugura même une web radio à l'automne, selon mes informations, mais le but ultime de l'entreprise de Pierre-Carl Péladeau demeure d'obtenir une vraie fréquence sur la bande FM, autant dans le marché de Montréal que dans celui de Québec. Voilà pourquoi Québécois a imposé cette mesure protectionniste limitant le champ d'action de ses têtes d'affiche. La clause d'exclusivité convergente vise notamment Mario Dumont, Richard Martineau, Jonathan Trudeau, Antoine Robitaille et Luc Lavoie. À Montréal, Mario Dumont a été confronté à ce choix, qui n'en est pas vraiment un, soyons honnêtes. Ça ressemble plus à un ordre, Québécois ou Cogeco. Mario Dumont entame ses journées au 98,5 FM de Cogeco depuis plusieurs saisons dans l'émission Puisqu'il faut se lever de Paul Arcand pour ensuite traverser à LCN, une station de la galaxie Québécois. Cette garde partagée n'a pas dérangé ses patrons à LCN jusqu'à ce que l'idée de la web radio de Québécois naisse. Évidemment que Mario Dumont, qui signe des chroniques d'opinion dans le Journal de Montréal, occupera une place importante dans la grille de cette future web radio. Dumont a donc dû abandonner son poste dans la commission Dumont-Curzy. Son remplaçant n'a pas encore été annoncé et le nom de Denis Coderre, qui a été testé en ondes au début du mois de mai, alimente plusieurs scénarios. J'ai posé la question directement à Mario Dumont. Son départ du 98,5 FM est-il lié au fait que Québécois exige de ses vedettes de ne plus sortir du périmètre tracé par l'Empire? Sa réponse, la cause est un peu plus compliquée que ça et elle sera mieux comprise en septembre. Québécois aurait proposé à Mario Dumont de nouveaux défis qui compliqueraient l'organisation de son horaire. En coulisses, la rumeur gronde que Mario Dumont piloterait une émission à une heure de grande écoute à LCN. Le cas de Mario Dumont aurait servi d'exemple pour tous les chroniqueurs montréalais de Québécois Média. Si la consigne d'exclusivité s'applique à Mario Dumont qui trône au sommet de la pyramide, elle s'applique à tous les autres employés sans exception, du journaliste au chroniqueur. Le signal envoyé par Québécois ne pouvait pas être plus clair. D'ailleurs, les reporters du Journal de Montréal qui sortent des scoops ou qui publient de costaudes enquêtes n'obtiennent plus la permission d'en parler à Paul Oud au 98,5 ou sur le plateau de Tout le monde en parle. Tout doit rester dans l'écosystème de Québécois de plus en plus refermé sur lui-même. À Québec, Richard Martineau et Jonathan Trudeau ont annoncé à la direction de Choix Radio X qu'ils ne copiloteront plus leur émission Martineau-Trudeau en septembre. Eux aussi suivent la ligne du parti. Les deux écrivent dans le Journal de Montréal en plus d'apparaître à LCN. Les deux ont décliné nos demandes d'entrevue hier. Le chef du bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour les quotidiens de Québécois, Antoine Robitaille, a également dû trancher entre Cogeco et Québécois. Québécois l'a emporté et Robitaille, un brillant communicateur, disparaîtra de l'émission Drainville PM du 98,5 FM à la rentrée. Antoine Robitaille n'a pas souhaité commenter la situation hier. Il décortique quotidiennement la politique dans l'émission de Bernard Drainville aux côtés d'Alec Castonguay de l'actualité. Bernard Drainville, qui joue sur les deux tableaux, Cogeco et Québécois, se trouve dans une position fort délicate. C'est confirmé qu'il conservera son micro au 98,5 pour la saison 2018-2019, ce qui signifie qu'il perdra, selon toute vraisemblance, sa place à la joute sur les ondes de LCN. Joint hier, Bernard Drainville a refusé de discuter de son avenir. L'histoire de Luc Lavoie, autre débatteur de la joute à LCN, est différente. Il aurait signé son contrat avec le 98,5 avant que la clause d'exclusivité de Québécois ne soit officiellement mise en vigueur. Comme il a refusé de résilier son entente écrite avec Cogeco, Québécois lui a montré la porte. Et si Québécois se débarrasse de Luc Lavoie, un des plus fidèles défenseurs de l'entreprise, même dans ses pires moments de lock-out, personne n'est à l'abri d'un congédiement. Le directeur général du 98,5, Philippe Lapointe, qui a longtemps dirigé TVA, a eu cette réaction hier. Nous, on n'empêche pas nos gens de faire de la télévision. Tout ça, c'est de la gestion interne de Québécois que je ne commenterai pas. » Lise Ravary, qui collabore au Journal de Montréal et aux émissions radiophoniques d'Isabelle Maréchal et de Paul Hood, affirme ne pas avoir été soumise à la même règle contraignante que ses collègues Dumont, Martineau, Robitaille et Lavoie. Mais entre vous et moi, qui gagne dans ces guéguerres de pouvoir? Certainement pas le lecteur ou l'auditeur. La libre circulation des chroniqueurs permet la libre circulation des idées, sans compter le rayonnement supplémentaire que cela procure aux différents médias impliqués, non? La convergence a ses raisons que la raison ne connaît pas. Francofolie, la renarde sur les traces de Pauline Julien. Cela fait 20 ans que la passionnariat de la chanson québécoise est morte, celle qui a chanté les Gilles Vigneault, Claude Léveillé et Anne Sylvestre, en plus d'écrire ses propres chansons, sera l'objet demain du spectacle d'ouverture des Francofolies. C'est l'artiste multidisciplinaire Inès Talbi qui en a eu l'idée et qui en assure la mise en scène. La comédienne et chanteuse Inès Talbi a découvert Pauline Julien à l'adolescence chez une amie dont les parents écoutaient beaucoup de musique québécoise. « J'étais attirée par l'intensité de sa voix, l'intensité dans sa voix. Il y avait une liberté, une puissance que je n'entendais pas à la radio. J'ai trouvé ça particulier, ça m'a intriguée, allumée. » Si elle a vite aimé l'œuvre de Pauline Julien, c'est plus tard qu'elle a commencé à admirer la femme pour sa fougue, sa théâtralité, son engagement politique. Elle m'a influencée comme artiste et comme personne. Sa persévérance, son cran, sa hargne, elle était sans peur, elle faisait ce qu'elle voulait. L'artiste de 34 ans avait envie de replonger dans ce répertoire, dans l'histoire de cette femme. C'est important parce que oui, j'ai l'impression qu'on l'avait oubliée. On l'a comme laissée de côté et c'est dommage. Il faut souligner l'importance des femmes artistes qui ont été marquantes, les revisiter, mais sans faire de copier-coller. Pour cela, Inès Talbi a réuni des chanteuses et comédiennes de toutes les générations, de Claude Pelgag à France Castel, en passant par Émilie Bibeau, Fanny Blum et Louise Latraverse. Pas nécessairement dans un désir de fusion ou de rencontre entre les générations, mais pour représenter le Québec de maintenant, dit-elle. J'avais besoin de chacune d'elles pour une raison particulière, mais je tenais aussi à ce que Louise Latraverse et France Castel soient là, pour leur regard réel et réaliste, parce qu'elles l'ont connue. Et ces deux femmes, elles sont clairement beaucoup plus rock que toutes nous autres. Le spectacle sera fait de chansons, des diverses époques de la carrière de l'interprète, mais aussi de lectures de textes tirés de La Renarde et le Malpeigné, recueil de correspondances entre Pauline Julien et son conjoint, le poète et ministre Gérald Godin, un livre qui a permis de découvrir, de redécouvrir le couple mythique ces dernières années.
My friends used to call me Paul, Lise, Pierre-Jacques ou Louise, Gros Papineau, Gauthier, Fortin, Robichaud, Charbonneau. Mommy, mommy, how come it's not the same? Oh, mommy, mommy, what happened to my name? Oh, mommy, tell me why. It's too late. Much too late. Mommy, mommy, I love you dearly. Please tell me where we used to live in this country. Trois-Rivières, Saint-Marc-Grand-Mère, Gaspé, Dolbeau, Berthier, Saint-Paul, Tadoussac, Gatineau. Mommy, mommy, how come it's not the same? When I was a baby, fais dodo, colle à mon petit frère, petit frère fait dodo, tu auras du lolo. Story. Un jour, ils partirent de France, bâtir ici quelques villages, une ville, un pays.
Pauline Julien, Mommy.
Sujet libre, Charlie Hebdo transmet sa mémoire post-attentat, c'est dans Le Devoir d'aujourd'hui. Les archives de Paris classeront puis diffuseront des milliers de documents reçus par le magazine après janvier 2015. C'est Séverine Roubi qui signe l'article. Des milliers de dessins, des lettres d'amour, de soutien ou d'insultes. Charlie Hebdo veut donner aux archives de Paris tous les documents reçus après l'attentat de janvier 2015 qui a décimé une partie de la rédaction de l'hebdomadaire satirique. Ce sont tous les courriers qu'on a reçus après. Je pense que ça fait partie de l'histoire et de la mémoire de la ville de Paris, explique Rhys. Donc, Rhys, qui est Rhys? Directeur, oui, et co-détenteur de Charlie Hebdo. Pas Rhys, mais Rhys, R-I-S-S. Le 7 janvier 2015, l'hebdomadaire avait été la cible d'une attaque djihadiste lors de laquelle deux hommes armés avaient exécuté 11 personnes dans ses locaux parisiens. Parmi les victimes, des figures emblématiques comme Cabu, Volinsky, Honoré, Tignou ou l'ex-directeur de la rédaction, Charb. Cette attaque a marqué le début d'une vague d'attaques djihadistes sans précédent en France. Le 11 janvier 2015, plus de 4 millions de personnes étaient descendues dans les rues des grandes villes de France, suivant le mot d'ordre « Je suis Charlie » en défense de la liberté d'expression. Une fois classés par les archives, ces documents reçus après l'attentat seront accessibles au public, notamment aux chercheurs, à l'instar des milliers de témoignages de soutien déposés sur les sites des attentats du 13 novembre 2015, 130 morts à Paris et à Saint-Denis, et indexés par les archives de Paris. Pour être effectif, ce projet doit encore être validé par le Conseil de Paris lors de sa prochaine réunion en juillet. Depuis plus de 200 ans, les archives de Paris collectent, classent, conservent et communiquent des documents d'intérêt historique concernant Paris ou l'ancien département de la Seine. Pour Guillaume Nahon, directeur des archives de Paris, le Fonds Charlie a sa place aux archives. Il est d'une grande richesse et formera un ensemble très cohérent avec les archives du 13 novembre pour pouvoir comprendre les réactions du public aux attentats de 2015. 35 grands cartons contenant entre 56 000 et 70 000 documents ont d'ores et déjà été transférés des locaux du journal à ceux des archives. Ils ont rejoint les quelques 67 kilomètres linéaires de documents que la ville de Paris conserve dans le nord de la capitale. Cela représente environ 12 mètres linéaires de documents. C'est un travail de classement très important. Il faudra faire l'inventaire et l'indexation de chaque pièce, ainsi que leur analyse juridique, souligne Guillaume Nahon. Le fonds sera accessible dans 2 ans car c'est un matériau brut dont il faut vérifier la communicabilité, soit la possibilité légale d'être montré au public, poursuit-il. Il a fallu 1 an et demi aux 2 archivistes volontaires pour classer les documents post-13 novembre. Ce sont les mêmes employés qui s'occuperont du fonds Charlie, dont une partie sera à terme consultable en ligne sur le site des archives de Paris, archives au pluriel .paris.fr. Les messages ont été préclassés par les équipes de Charlie Hebdo en 7 grandes catégories. Les courriers à traiter ou à transmettre à leur destinataire, les abonnements, les dons, les dessins d'enfants et d'adolescents, les courriers et dessins d'adultes de soutien à la rédaction, les soutiens par poème et les cahiers de condoléances. Les dessins d'enfants constituent la part la plus importante du fonds, 12 cartons, soit au moins 24 000 documents. Parmi eux, 150 dessins ont été sélectionnés par l'association Dessiner, Créer, Liberté, créée par Charlie Hebdo, SOS Racisme et l'association lycéenne Fiddle pour faire partie de l'exposition Je dessine, qui a tourné dans 18 villes de France et arrive à l'Hôtel de Ville de Paris du 6 au 12 juin. Ces dessins, également publiés dans un livre l'année dernière et donc déjà accessibles au public, seront mis en ligne plus rapidement que le reste du fonds, précise Guillaume Naon ou Naon. Plusieurs universitaires et sociologues, notamment ceux qui travaillent sur les réactions post-attentat, souhaitent pouvoir consulter tous les documents et en ont déjà fait la demande aux archives. C'était dommage de ne pas utiliser tous ces courriers. On s'est dit que les universitaires pourraient en tirer parti mieux que nous. Les mettre à disposition et les conserver, ça demande un travail de spécialiste, estime RIS. Un engouement effervescent. Les bouteilles d'eau pétillante ne cessent de se multiplier sur les tablettes. Elles ont d'ailleurs généré des ventes de 59,7 millions en 2016 au Québec, une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Pourquoi sont-elles si populaires? Quels sont leurs avantages? Comment choisir? Eau gazeuse, c'est dans Pause de la presse. C'est un article signé Nadiel Couteloup. La digestion et les bulles, un mythe. On entend souvent que l'eau gazeuse est bénéfique pour la digestion. Or, non seulement c'est faux, mais elle peut même lui nuire. Quand l'eau pétillante arrive dans l'estomac, ça va faire des bulles et du gaz qui vont sortir en eau, ce qui peut donner l'impression que ça nous aide à digérer, mais dans les faits, rien ne prouve que ça aide et que ça a une efficacité sur la digestion, affirme la chimiste spécialisée en alimentation Anne-Marie Desbiens, auteure du blog La Foodie Scientifique. La nutritionniste Evelyne Debloch ajoute que le liquide combiné aux aliments augmentera la pression dans l'estomac, ce qui augmente les risques de reflux. Il est donc préférable d'en boire entre les repas plutôt que durant. Conclusion, pour les gens qui ont des problèmes gastriques, de reflux, de côlon irritable ou qui ont tendance à avoir des ballonnements, l'eau pétillante n'est pas recommandée, soutient Anne-Marie Desbiens. Pour boire de l'eau pétillante, aide-t-il à maigrir? Pour perdre du poids, il faut manger moins de calories qu'on en dépense et l'eau ne contient pas de calories. Toutefois, boire de l'eau gazeuse au repas augmente la pression dans l'estomac, ce qui peut contribuer à la satiété précoce et par conséquent à une diminution de nos rapports alimentaires caloriques, explique Evelyne Debloch. Ainsi, on pourrait être porté à manger de plus petites portions, surtout que l'eau pétillante exerce une pression plus importante sur l'estomac que l'eau plate. 30,6 % des achats d'eau en bouteille sont de l'eau gazeuse, source MAPAC 2016. Ces eaux sont-elles naturellement gazeuses? Oui et non. Certaines sont naturellement gazéifiées, comme celle des géants Perrier et Badoit, alors que d'autres, comme celle de l'italienne San Pellegrino, propriété de Nestlé, sont artificiellement gazéifiées. Mais même les eaux naturellement pétillantes doivent généralement subir en usine l'ajout d'un gaz naturel ou artificiel. Si on ne standardise pas l'eau en ajoutant du gaz, on va se retrouver avec des bouteilles qui auront plus de bulles que d'autres, explique Anne-Marie Desbiens. L'eau minérale de Saint-Justin, en Mauricie, est la seule eau naturellement gazéifiée dans le sol au Québec, mais naturellement gazéifiée ou pas, cela ne change rien au goût, souligne la chimiste. Un genre de Gatorade sans sucre. Ce n'est pas parce qu'une eau est gazeuse qu'elle est minérale. Et au-delà des bulles, ce qui différencie surtout les eaux, ce sont les minéraux qu'elles contiennent. La San Pellegrino n'est pas naturellement gazéifiée, mais elle est naturellement minéralisée. Donc, cette eau contient naturellement beaucoup de sels minéraux qui, eux, changeront le goût de l'eau, poursuit-elle. L'avantage de l'eau minérale, elle est plus riche en électrolytes, électrolyteux. C'est un peu un genre de Gatorade sans sucre. Ça peut être intéressant pour les personnes déshydratées qui font du sport. Dans ce cas, c'est plus intéressant que l'eau de source, explique la chimiste. Des eaux gazeuses sont particulièrement riches en calcium, comme la Vichy Célestin, la Badoit, la San Pellegrino et la Perrier. Il faut toutefois en boire une importante quantité pour que l'apport soit significatif. Certaines entreprises gazifient leurs eaux avec du bicarbonate de sodium, d'autres avec du gaz carbonique. Que ce soit du bicarbonate ou du CO2 qu'on rajoute à l'eau, au bout du compte, ça revient au même. On se retrouve avec la même molécule dans l'eau, de l'acide carbonique, sauf qu'en ajoutant du bicarbonate de sodium, on a plus de sel, note Anne-Marie Desbiens. Les eaux de source, comme Esca, sont faibles en sodium, étant peu minéralisées. Faut-il bouder les eaux gazeuses riches en sel? Non, répond la chimiste. Seuls ceux qui doivent limiter leur apport en sodium doivent y porter attention. Comment choisir son eau gazeuse? Sur les tablettes, les eaux gazeuses ne cessent de se multiplier. Est-ce pour répondre à une plus grande demande ou est-ce l'offre grandissante qui attire plus de consommateurs? Difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que les ventes de boissons gazeuses ont chuté de 0,6% entre 2015 et 2016, alors que celles des eaux gazeuses sont en croissance. Alors voilà, ça fait presque le tour de ce dossier très, très vaste dans la presse. Section pause. Merci Mathieu Tessier au choix musical et à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous d'avoir été présent. On se retrouve demain, déjà vendredi. À bientôt!